Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de G comme Odéon, une émission conçue par et pour des curieux de différents horizons, ceux qui ont envie de partager des émotions, petites et grandes, à plusieurs ou en solo, bref, comme on veut, quand on veut. Cette semaine, il sera question d'aluminium avec sens artistique, de chromosome 51, un ciné-concert pas tout à fait comme les autres, de Renata n'importe quoi de Catherine Guérard et bien entendu, nos Gédéons. Michel Amélie Favre, on est ici dans l'exposition qui s'appelle L'Alu. On a joué sur les mots, évidemment. Michel Amélie, ça vous ressemble. J'aimerais qu'on parle d'abord du lieu dans lequel, parce que c'est un lieu emblématique, c'est le Palais Saint-Jean, hein, c'est juste à côté de la cathédrale Saint-Jean. Hein. C'est un lieu qui accueille une bibliothèque, donc vous exposez ici, en plein cœur de la bibliothèque, des œuvres qui nous parlent d'une matière qu'on utilise partout, qu'on voit partout, qu'on a dans nos cuisines, qu'on a dans l'alimentaire, qu'on a dans les bombes pour les cheveux, pour tout, dans nos canettes, etc., qui est l'aluminium.
Absolument, bonjour Gaëlle, merci d'être là. Et bienvenue à la Biennale hors normes pour cette 10e édition à laquelle je participe et avec grande fierté. C'est ma 2e exposition au Palais Saint-Jean. J'avais fait Rosatopia autour de la rose l'année dernière. Le lieu est mythique, c'est d'abord la première bibliothèque de Lyon, avec son plus ancien silo qui a été ensuite qui est parti à la Part-Dieu. Mais de manière plus ancienne, il y a un passé assez incroyable puisque c'était la résidence de Napoléon lors de son séjour lyonnais. Donc effectivement, le lieu est emprunt de toute une histoire assez emblématique et dans lequel je suis très heureuse d'exposer.
Ce lieu emblématique, on l'a dit, Napoléon était un homme d'innovation. Ici, vous nous parlez justement d'innovation, vous nous parlez aussi de cette matière résonne en vous pour des raisons familiales aussi, je crois.
Alors oui, entre autres, il y a trois raisons principales pour lesquelles je travaille l'aluminium et je suis allée vers l'aluminium. La première, c'est depuis de nombreuses années, j'ai envie d'aller dans la matière. Donc j'ai beaucoup travaillé jusqu'à présent la photo, puis la photo-peinture, photo-dessin. Et j'avais vraiment besoin de reconnecter, le travail de la matière. Donc l'aluminium est très malléable, très léger, mais également brillant. Donc parfait pour le travail que je voulais accomplir au niveau artistique. La deuxième raison, c'est pour des engagements, on va dire, plus écologiques. L'aluminium, il faut savoir que c'est un matériau qui est recyclable à l'infini et à 100% sans déperdition d'altérité. Donc très intéressant et effectivement que l'on retrouve dans tous les usages au quotidien, depuis nos cuisines, comme vous l'expliquiez, jusque dans nos automobiles, les vélos électriques, etc., jusqu'à l'aérospatiale, effectivement, dans les stations spatiales, et notamment l'ISS. C'est vrai que c'est en cela... Et de plus en plus, un métal qui va prendre à nouveau de l'ampleur, puisqu'il faut savoir qu'au 19e siècle, il était valorisé au même niveau que l'or et l'argent. Donc on le coule toujours en lingots, hein, donc il y a bien une raison à ça. Ne serait-ce que pour prendre l'industrie automobile qui cherche la légèreté avec les véhicules électriques, eh bien aujourd'hui on mise beaucoup sur l'aluminium qui est très, encore une fois très léger.
Il y a un lien familial aussi dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Absolument. Effectivement, cette troisième idée, hein, qui est évidemment nous, dans la région Rhône-Alpes, on a aussi des lieux emblématiques où il y avait des ouvriers qui travaillaient la sidérurgie et notamment l'aluminium.
Absolument, donc j'allais venir à ça, effectivement, la troisième raison et qui n'est pas des moindres, elle est familiale parce que moi j'ai des origines savoyardes et notamment du côté de la vallée de la Maurienne où il y a un lien très très proche avec l'ancienne usine Péchinet qui est actuellement Trimet, qui était rachetée par le groupe allemand Trimet. Un hommage à la fois à mes aïeux, à mon père et aussi une reconnexion, un enracinement enracinement, peut-être au travers de la matière et au travers de ce travail avec les mains, concrètement, dans le métal pour, reconnecter avec ses origines.
Alors, c'est vrai que c'est très intéressant. Vous nous proposez ici une variation, j'ai envie de dire, sur le thème de l'aluminium, bien sûr, la matière, avec des choses qui sont extrêmement différentes les unes des autres. On a de l'installation, par exemple, ici, avec cette valise, cette grande malle, avec ce panneau, avec les références à Paco Rabanne, les références à différents éléments, à différents temps, peut-être un peu pop. Et puis, on a aussi des œuvres plus pictural, si je peux m'exprimer ainsi, celle qui est en face de nous, par exemple, avec ces systèmes de pliage et ces systèmes d'impression. Est-ce que vous voulez bien nous décrire justement ces innovations que vous avez mis en place pour travailler justement ces pliages et ces froissages, on va appeler ça comme ça, d'aluminium?
Oui, alors bon, ça c'est une de mes, c'est ce qui me caractérise en fait, c'est la recherche permanente d'innovation. Et je crois que dans le travail d'un artiste, c'est aussi bien entendu et d'une manière générale des rencontres. Et là, ça a été, j'allais dire, la possibilité de travailler avec quelqu'un de confiance où j'ai voulu faire de l'impression directement sur feuille d'aluminium, ce qui était un vrai défi technique. On y est arrivé grâce à Philippe aussi, Philippe Toussieux, et je pense que c'est une belle réussite. C'est prometteur pour la suite, en fait. C'est, j'allais dire, notre premier essai. Je pense que c'est assez concluant. L'idée étant de montrer ici de l'aluminium froissé sur de l'aluminium froissé. Alors, je m'explique parce que quand on écoute ce que je suis en train de dire, c'est pas toujours évident, il faudrait l'avoir effectivement sous les yeux. Concrètement, alors c'est vrai Gaëlle, on en parlait tout à l'heure quand on regardait même les grands pans en 80-120 de Chromalux, j'ai des inspirations artistiques du côté de John Chamberlain, on en a parlé notamment sur les pliages en fait de matière, de métal, lui était dans l'acier, et également de Simon Antaille que voilà, c'est un maître au niveau des pliages. Et là l'idée était de travailler sur un dessin de feuilles d'aluminium froissé que l'on a converti en impression directement sur une feuille d'aluminium, que j'ai froissé également par la suite pour réaliser une œuvre qui est au mur, mais qui s'apparente à une sculpture. Voilà. C'est-à-dire que on peut la mouler à sa manière, elle va prendre vie, elle va prendre forme, on peut la modeler différemment en fonction des goûts, des jours, etc. Mais ce qui m'a intéressé effectivement, c'est de montrer finalement, plutôt que d'avoir quelque chose de figé, une structure sculpturale, j'allais dire, sur le mur.
Très intéressant plastiquement, il y a à la fois bien sûr cette matière qui est la brillance, mais aussi l'absorption de la lumière. C'est exactement ce qu'on a, on va se déplacer dans la grande salle. Quand on arrive dans votre exposition, il y a une très grande installation. On va pas révéler parce que c'est un peu un secret. Il faut que les gens viennent voir l'exposition. On va pas tout révéler tout de suite. On se rend compte que, la lumière joue un rôle essentiel aussi dans vos installations et dans votre travail.
Oui, c'est ça. En fait, l'idée c'est regarder vers le haut pour aller chercher la lumière. C'est ce que j'invite à faire quand les personnes viendront au Palais Saint-Jean. Lever les yeux au ciel et aller chercher la lumière. L'avantage de travailler sur une structure, enfin du moins sur une installation monumentale, parce que là c'est ça, hein, vous allez voir, c'est 24 mètres de long, 3 mètres de haut, elle s'appelle l'installation 202. Pourquoi ? Parce qu'on a 202 bandes d'aluminium qui ont été fixées. Je n'en dis pas plus, bien entendu, il faut venir voir. À partir du moment où on est sur un métal qui est extrêmement malléable, on va jouer avec la lumière et les reflets. J'aime beaucoup créer des illusions, ça, dans mon travail, d'une manière générale, que ce soit autour des fleurs, hein, sur un autre pan, mais également autour de ce matériau qui est l'aluminium. L'intérêt principal, c'est d'aller chercher des reflets et de pouvoir ouvrir par digression vers d'autres visions, et d'où l'alu, le jeu de mots, l'hallucination autour de l'aluminium.
Je crois que vous avez travaillé aussi avec une entreprise pour obtenir finalement toute cette matière d'aluminium, parce que il y a parfois de l'installation qui nécessite beaucoup de matière, beaucoup de matériaux, quand nos auditeurs viendront voir l'exposition, ils comprendront mieux. Donc je crois que vous avez travaillé avec une entreprise qui vous a fourni les matières premières.
Absolument, j'ai eu la chance d'avoir le soutien d'un industriel recycleur, Ecométal Recyclage Industrie, Stéphane Laine, que je remercie encore encore énormément pour son accompagnement aussi. Et la possibilité pour moi d'aller explorer différents types d'usages aussi de l'aluminium, mêler l'industriel à l'art, je trouve ça passionnant.
L'exposition a lieu jusqu'à quand ?
Alors jusqu'au 28 octobre 2023 au Palais Saint-Jean, suivant les horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale et dans le cadre de la 10e Biennale hors normes.
Nous poursuivons avec toi, Guillaume. Cette semaine, tu es venu accompagné de Julien Chiez et Guillaume Place. Tes invités sont venus évoquer le ciné-concert Chromosome 51, un voyage vers des planètes qui sont vraiment pas à côté. On a vraiment envie d'en savoir un petit peu plus. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir, Julien. Bonsoir, Guillaume. Si je vous dis espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial, sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. À votre avis, je fais référence à quoi ? C'est le début de quelle série mythique des années 60 ?
Alors, c'est pas K2000, hein, parce que K2000, c'est après.
Non, tu te rappelles pas, c'est Star Trek. Alors, pourquoi j'évoque Star Trek ? Parce que votre spectacle, que personne n'a vu pour l'instant, puisque la première sera le 20 septembre à l'Iris, donc à Francheville, est venue cette idée de faire un ciné-concert. Des ciné-concerts, il y en a plein. Mais là, c'est un peu particulier quand même.
L'aventure, elle est partie de très très loin. On s'est retrouvé avec Guillaume, on se connaît depuis très longtemps. Et on s'est dit, mais si on faisait de la musique ensemble pour le plaisir. Et puis du coup, on a fait du son. Et rapidement, nous est venue cette idée de la mettre en image. Et puis en fait, c'est quelqu'un de Ciné Duchère qui est passé, qui nous a dit, c'est quoi cette musique que vous faites ? C'est complètement fou, ça se prêterait trop à de la science-fiction. Et vu qu'on était en pleine réflexion, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille, et c'est vrai que ça faisait complètement science-fiction. Et du coup, on a mis les mains dedans, on s'est vraiment intéressé. Alors on était un petit peu, on avait cette culture science-fiction, mais très 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 modeste. Et du coup, on est allé à fond dedans, on a lu des bouquins, le guide du voyageur intergalactique, on est allé voir des festivals, les intergalactiques, vraiment on s'est plongé dans cette culture-là, et on a regardé plein de vieux films. Et en fait, on a découvert des pépites absolue. On a mûri le projet, on va vite se confronter à un problème, ça va être le problème des droits. Donc du coup, on a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on a balayé différentes décennies. En balayant la décennie des années 60 où on a vu des véritables pépites, ça avait l'avantage aussi de pouvoir piocher dans des films qui sont libres de droits. Ce qui nous plaisait aussi, hein, tu me dis Guillaume, si tu veux qu'on plaisait, mais c'était des films en tout cas que nous on connaissait pas.
Mais c'est peut-être plus intéressant d'avoir des films justement inconnus pour placer votre musique entre guillemets.
Bah complètement, c'est-à-dire qu'en fait du coup on créait la musique beaucoup sur base d'improvisation, et puis en fait on alternait avec du visionnage d'images, et puis on se laissait imprégner parce que nous renvoyait comme émotion les images, comme sonorité. Ça nous a vachement aidé à cadrer notre propos artistique. On a vraiment réfléchi avec Guillaume à fond sur, bon, on veut une musique originale, on veut faire un truc original, ça va passer par des choix d'instrumentation. Mais il faut qu'on fasse des choix, quoi. Donc on s'est orienté en disant, qu'est-ce qu'on va utiliser comme instrument ? Quel type de sonorités qui vont nous contraindre, nous remettre en question dans nos habitudes de composition et qui vont faire en sorte que ça va nous obliger à aller vers quelque chose d'original au service des images. C'était un petit peu l'idée.
D'accord. Alors justement, en parlant d'instrumentation, il y a un teaser là qui est sorti pour parler du spectacle. Et donc il y a Guillaume au clavier et puis toi à la guitare.
On va dire qu'on est d'abord et avant tout des rockers, en fait, faut pas l'oublier. On part de cette base-là et on fait évoluer la chose. Le projet est, comme on le présente, en fait, un détournement ciné-concert. En fait, le détournement, il est un petit peu à tous les endroits. C'est-à-dire qu'on détourne un petit peu des outils pour en faire quelque chose de différent. En l'occurrence, on a tous les deux des guitares. Moi, j'ai un clavier. Julien a un équivalent d'un clavier, on va dire un clavier tactile. Mais l'idée, c'est d'abord et avant tout de penser musique. Et on a construit la création du film, du coup, le montage de ce film sur la base de la musique. Donc, c'est pas de la musique à l'image, c'est de l'image à la musique.
Mais il n'y a pas que de l'image, parce que si j'ai bien compris, il y a aussi beaucoup de jeux de lumière, de choses comme ça aussi.
C'est ça.
On laissait libre cours à toutes nos idées. On se mettait aucune censure. Et Guillaume, il est assez doué, même très très doué. Il est énervant de tout ce qui est technique. Donc à chaque fois qu'il y en a un des deux qui a une idée, il dit vas-y, on le tente. Donc on a commencé avec des petites barres de LED à faire 2-3 essais. Enfin, on a imaginé une structure, voilà, qui va servir, qui ressemble un petit peu quelque part à une coquille Saint-Jacques. Ouais. On s'en est pas aperçu tout de suite. Je pense que c'est le travail de l'inconscient. Et on s'est dit, putain, mais c'est une coquille Saint-Jacques de l'espace, en fait, le truc. Et du coup, ça devient un personnage aussi aussi, au même titre que les personnages qu'on voit à l'image, il y a ce personnage qu'on a appelé Madame, avec un profond respect, qui est là sur scène avec nous et qui raconte à sa manière des choses et qui permet d'embarquer et nous et le public dans cette espèce de voyage, quoi.
Vous aurez des costumes façon Star Trek.
On aura des costumes. On a fait l'élaboration des costumes ce matin. Si tout va bien, il nous manque un accessoire. Ce qui était difficile, c'était de trouver un truc qui nous mette, nous, en tant que musiciens, à la bonne. Enfin, trouver le bon dosage dans tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on prenne la place non plus sur l'image, tout ça. En même temps, on ne pouvait pas complètement s'effacer.
On avait pensé à la base, pourquoi pas jouer à la carte de l'anonymat en ayant des casques. Mais on s'était dit que c'était pas une bonne idée, du coup. Ça marcherait pas.
Oui, ça a déjà été un peu fait.
Ah, plus. Je sais pas. Pas au courant.
Voilà. Du spectacle Chromosome 51, jeu de mots, n'est-ce pas?
Le clin d'œil à la zone 51, c'était un clin d'œil en fait à toute cette époque de recherche, de conquête spatiale en fait, de période aussi de guerre froide, tout ça est beaucoup rempli d'ego. Le spectacle tourne pas mal autour de ça.
Globalement, le spectacle dure combien de temps?
Il dure 57 heures, donc il faut venir. Il faut prévoir un oreiller, voilà.
Ça tombe bien puisque c'est à l'Iris à Francheville, donc oui. Le 20 septembre, et c'est une salle qui est particulièrement sympathique et très confortable. Et donc en plus, si je crois bien, hein, c'est un spectacle gratuit là. On
oui.
est d'accord.
Totalement.
Voilà. Donc il suffit, on mettra sur le site effectivement le lien pour pouvoir réserver, puisque le 20 septembre
c'est demain.
Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une excellente première.
Merci pour votre accueil et puis on espère tous vous voir le 20.
À très vite.
Nous poursuivons avec la lecture de Thomas, d'un texte de Catherine Guérard, écrivaine indocile. On en parle après t'avoir écouté.
Un jour, je leur ai dit, j'en ai assez, je pars. Ils m'ont dit, non, vous n'allez pas faire ça. Et où allez-vous aller ? J'ai dit, je ne sais pas. Et ils m'ont dit, et où allez-vous habiter? Et avec quel argent allez-vous vivre? J'ai dit, j'ai des économies. Madame a dit, des économies, ça n'est pas assez pour trouver un logement. Mais le logement, ça m'était égal, j'irai n'importe où. Sur un banc, a dit madame, sur un banc. C'est ce qui vous attend. On ne part pas ainsi, a dit monsieur. C'est de la folie. Il faut continuer à travailler, a dit monsieur. Là ou ailleurs, mais travailler. Alors j'ai dit, travailler pourquoi? Avec mon argent qui dort dans une boîte et moi toujours dans quatre murs que je n'aime pas? Il y a des portes. C'est fait pour partir, les portes, j'ai dit. Mais les portes, c'est aussi fait pour rentrer, a dit monsieur. Laisse-la, madame a dit. Tu vois bien qu'elle veut partir. Vous voulez partir pour aller ailleurs, a demandé monsieur. Ailleurs, qu'est-ce qu'il voulait dire ailleurs? Ailleurs, cela voulait dire tant de choses. Ailleurs, j'ai demandé. Ailleurs, dans une autre place, a dit madame. J'ai dit non, je veux être une libre. Me promener, regarder, on ne fait pas une chose pareille. Ils ont dit, on n'est jamais libre si on ne gagne pas sa vie. Ils ont dit, alors j'ai dit, mais pourquoi? Je serai bien plus libre quand je ne travaillerai plus. Alors monsieur a dit, qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? Et madame a eu l'air agacée. Elle a dit, Robert, ne te lance pas dans des discussions philosophiques. Et moi, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. J'ai dit, la liberté, c'est de s'asseoir sur un banc et d'écouter les oiseaux chanter. Et c'était vrai, ça. Ça me plairait bien, une liberté comme ça. Mais l'argent, a dit monsieur, l'argent. Où trouverez-vous l'argent? J'ai dit, l'argent, on n'en a pas besoin. Les bancs sont gratuits et les oiseaux chantent sans qu'on les paie. Alors monsieur a haussé les épaules et madame a dit, bon, eh bien, partez si rien ne peut vous faire entendre raison. Alors j'ai eu le cœur plein de joie et je suis monté faire mes paquets. Mais avant, en quittant le salon, j'ai collé mon oreille sur la porte pour savoir s'ils allaient parler de moi. Elle est complètement cinglée, a dit monsieur. Complètement, a dit madame. Mais tu ne crois pas qu'il faudrait la retenir, a dit monsieur. Où va-t-elle coucher? Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire, a dit madame. Nous n'arriverons pas à la retenir. Tu ne m'avais pas raconté un jour une histoire d'ambassadeur, a demandé monsieur. Ah oui, s'est exclamée madame. Qu'est-ce que c'était encore, a demandé monsieur. Elle disait qu'elle a été follement aimée par un ambassadeur de France, a dit madame. Eh bien, elle aura toujours la ressource d'aller faire des ménages au Quai d'Orsay, a dit monsieur. Et puis madame a ouvert la télévision et c'était des chansons et je suis montée dans ma chambre et je riais et j'étais heureuse sous la fenêtre. Il y avait des cartons vides et je les ai mis sur mon lit et j'ai pensé évidemment une valise ce serait mieux. Mais une valise se fait pour transporter les choses d'un endroit à un autre endroit. Et moi, pour transporter mes choses d'un endroit à pas d'endroit, une valise, ça n'irait pas. Et puis d'ailleurs, je n'en avais pas. Et pendant que je pensais à tout ça, avec les valises, j'ai ouvert mon armoire et dans le bas, il y avait le carton avec les lettres de Paul. Alors je l'ai pris, le carton, et je l'ai mis sur le lit. Et puis on a frappé et ça ne m'a pas plu. Et j'ai dit, qui est là? Et c'était Mademoiselle Florence. Alors j'ai ouvert. Écoutez, elle a dit, maman m'envoie pour vous dire que si cela vous fait plaisir, on pourrait vous installer un oiseau dans la cuisine. J'ai dit, un oiseau comment? Un oiseau en cage ou un oiseau en liberté qui volerait et qui viendrait se percher sur mon épaule ? Mademoiselle Florence a répondu : mais un oiseau en cage, bien sûr. J'ai dit : mais quand je ferai le salon alors ? Mais tout de même, elle dit : vous ne pouvez pas demander un oiseau dans chaque pièce. Mais moi, je ne demandais rien. Je posais des questions logiques et puis j'ai dit : la cage, comment serait-elle ? Parce que je veux une cage blanche et pas rectangulaire. Vous vous arrangerez avec maman, a dit Mademoiselle Florence. Et puis elle est partie et ça y était, je pouvais faire mes paquets. Alors j'ai tout mis sur le lit : les lettres, les cartes postales, mes habits et tout le fourbi. Et puis j'ai relu les cartes. Ça m'était égal. Les cartes, c'était des cartes postales de mes connaissances, alors je les ai toutes déchirées pour ne pas trop me charger. Et tout le reste, je l'ai mis dans 4 cartons avec de la ficelle autour. Et je me suis couché et c'était drôle de se dire que j'allais partir, que la nuit suivante, je ne dormirais peut-être pas dans un lit. Et puis au bout d'un petit moment de pensée, je me suis endormi et quand je me suis réveillé, c'était le matin. Alors je me suis habillé, j'ai tout pris mes paquets et je suis descendu. « Alors vous partez vraiment ?» a dit madame. « Cela ne vous intéresse pas d'avoir un oiseau ?» J'ai dit « un oiseau avec une cage blanche, comme chez l'antiquaire près du coiffeur ?» Tout de même, madame a dit, il ne faut pas exagérer, non, un oiseau avec une cage normale. Alors j'ai secoué la tête et j'ai dit, même votre oiseau normal, ce ne serait pas suffisant pour que je reste. Ou alors, j'ai dit, ou alors, a dit madame, ou alors, en plus de l'oiseau, il me faudrait aussi la télévision et puis 2 heures par après-midi. Rien que cela, a dit madame. Et pour faire quoi, hein, vos après-midi ? Vous ne jouez pas au tiercé, vous n'allez pas chez le coiffeur, vous n'avez pas d'amis, pas de relations. Alors, j'ai pris ma respiration et j'ai dit, madame, c'est pour aller donner à manger au canard.
J'adore, quel texte puissant. Renata n'importe quoi s'appelle le livre de Catherine Guérard. Elle est incroyable cette femme, surtout qu'elle a complètement disparu. Elle a écrit l'histoire qu'elle a écrite juste après l'avoir écrite.
Dans ce texte, je vous ai lu le début. Je précise les éditions du Chemin de Fer, hein. C'est une très belle maison d'édition qui a réédité ce texte. On monte dedans comme dans un métro en marche, hein. Ça ne s'arrête pas, les lignes sont pleines, il n'y a jamais de points. Il y a des majuscules régulièrement, mais ça réamorce en permanence et on n'a pas envie de s'arrêter quand on lit ça. C'était assez compliqué de mettre ça en voix.
C'est un soliloque, hein, ouais. Ininterrompu d'une femme simple qui en a assez et qui part pour être libre.
C'est-à-dire qu'il y a un côté ingénu, mais en même temps, elle déroule de la logique extrêmement élaborée. Elle pousse la radicalité de la liberté jusqu'au bout. C'est ce qui est vraiment intéressant dans ce texte. Hein.
Déambule dans Paris, de banc public en banc public, ouais. Avec pour tout bagage 4 malheureux cartons ficelés à la va-vite, hein, sur lequel elle veille comme sur le plus précieux des trésors.
Voilà.
C'est magnifique.
Et alors, petite anecdote, parce que j'ai découvert ça en grattant un petit peu autour de Catherine Guérard, sur laquelle tout est muet. Hein. Sur Internet, il y a extrêmement peu d'informations, puisqu'elle a disparu. Mais il y a quand même une information qui a filtré, c'est que ce texte, qui est dédié à un certain François, eh bien, en fait, il s'avère, on l'a appris après, que c'est François Mitterrand. Qu'est-ce qui fait que cette autrice qui a publié ce livre en 67, c'était un texte en lice pour le Goncourt à l'époque, hein, avait dédié ce texte à François Mitterrand. Voilà, si quelqu'un
le mystère
en sait un peu plus, je suis preneur.
Ouais, exactement. Le mystère Catherine Guérard. Merci beaucoup, Thomas. C'était un plaisir, comme d'habitude. Terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur. Alors Guillaume.
Alors comme on est bien sûr au Théâtre Coméléon, je ne pouvais pas ne pas évoquer un groupe québécois qui s'appelle Carquois. Alors vous allez me dire, qui connaît Carquois en France ? Peu de gens, alors que ce sont des superstars.
C'est pas grave, on adore les groupes confidentiels que tu nous fais découvrir.
Mais pas du tout confidentiel, pour une raison très simple, c'est qu'un des leaders, bon ils sont pleins hein, sur scène, c'est Louis-Jean Cormier. Et Louis-Jean Cormier, qui est un artiste québécois, qui est venu souvent au Théâtre Comédie Odéon, cette année encore. Il y a une belle photo de Fabrice Buffard qui trône au-dessus du bar du théâtre. Voilà, donc Carquois, c'est un groupe qui s'était pas reformé. Chacun avait fait un parcours solo, dont Louis-Jean Cormier, mais les autres aussi. Et donc, ils sortent un album le 13 octobre qui s'intitule « Dans la seconde ». Et on retrouve Carquois il y a 13 ans. Parce que oui, le dernier album date d'il y a 13 ans. Et donc, effectivement, c'est assez extraordinaire de réentendre finalement ce groupe et qui est un groupe qu'il faut voir sur scène. J'espère qu'ils vont tourner. Oui, je sais qu'ils tournent, mais il n'y a pas de date pour l'instant à Lyon. Donc j'en appelle au programmateur lyonnais. Il faut absolument faire jouer Carquois à Lyon. Pourquoi ? Parce qu'ils passent en octobre à Reims, ensuite à Bruxelles, Lille, Liège, Vendôme. Il y a un concert à la Maroquinerie le 3 novembre à Paris. Et puis à Saint-Lô, au rendez-vous sonique le 4 novembre. Donc en fait, il n'y a pas de date dans notre région. Mais il faut absolument qu'ils restent en France. Mais comme Louis-Jean aime beaucoup le vin français, aime beaucoup les des repas lyonnais. J'espère qu'on aura une belle date. Alors peut-être sur la scène du Théâtre Comédie de Lyon, ça serait formidable. J'en
pourquoi
appelle à notre cher
Julien Poncet, le directeur du théâtre. On écoute un extrait.
Ces mâchoires qui broient, qui claquent, qui la blessent. Un long passage entre deux vagues qui cherche à mort. Elle passe et glisse avec exploit de justesse. Premier abord, trouve un endroit sans orchestre. Elle se redresse, elle se sent vide. Sur son dos blanc, ce qu'il en reste, un simulacre avec les gris, genre de messe. Toutes ces mâchoires qui boit, qui claque, qui cherche à mort. Elle a trouvé sous un rocher une vieille caisse, à l'intérieur serpent venin qui se dresse. Au bord du drame, on la désire, elle se sent vivre.
On vient d'écouter Carquois alors.
Voilà, on vient d'écouter Carquois. Et alors pour la petite histoire quand même, moi j'ai découvert Carquois dans un endroit très confidentiel qui existe encore, qui est la péniche Le Sirius,
ouais.
En 2011. Oui, je suis vieux. Et c'était vraiment un moment extraordinaire. C'était déjà leur quatrième album à l'époque.
Alors pour moi, ce sera l'actualité de rentrée de l'Aquarium Ciné Café avec le festival Les Libraires Font Leur Cinéma. Ce petit festival, on va appeler ça comme ça, qui allie à la fois la thématique cinéma et le livre, est extrêmement intéressante. L'aquarium que Ciné Café, c'est à la Croix-Rousse, propose un ciné-club intitulé donc Les Libraires Font Leur Cinéma. Chaque jeudi, une carte blanche est donnée à l'une des librairies partenaires. Vivement Dimanche, la librairie à soi, Le Livre en Pente et Un Petit Noir. Et donc, chacun va de sa proposition. Je retiens celle qui va nous intéresser cette semaine. Jeudi 21 septembre à 20h30, Au-dessous du volcan, drame de John Huston, en présence de Marco Géru de la librairie Le Livre en Pente. La semaine suivante, le jeudi 28 septembre à 20h30, Seules les bêtes, thriller de Dominique Moll, qui est absolument incroyable, en présence donc de Jean-Pierre Barrel de la librairie un petit noir. J'adore ce lieu, c'est un lieu associatif où on peut découvrir finalement des DVD, des choses avec des vrais cinéphiles qui adorent ça et des passionnés de littérature. L'Aquarium Ciné-Café que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Allez, bonne semaine à vous tous, à la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.